Bonjour Olga Kurylenko.
Bonjour.
Je m'appelle Tom, enchanté, bienvenue sur Énergie.
Merci.
Dans quelques instants, tu vas rentrer en stase, c'est-à-dire qu'autour de toi, le temps va s'arrêter. Mais avant, il faut passer par une étape importante, c'est la rétrospective. 30 secondes durant lesquelles je vais te poser des questions sur des moments clés de ta vie. Les horloges s'arrêteront ensuite de tourner et nous pourrons démarrer la discussion. Est-ce que tu es prête?
Oui, ça me fait peur.
Olga, ta date de naissance?
14 novembre 1979.
La ville où tu as grandi?
Berdiansk, en Ukraine.
L'endroit préféré de ton enfance?
De mon enfance, Berdiansk, parce que j'étais que là.
Le premier film dans lequel t'as joué?
L'annulaire.
L'artiste qui t'a le plus inspiré?
Brigitte Bardot.
On passe en stase. Olga, au cours de ce podcast, on va voyager d'abord dans ton présent, ensuite on ira dans ton passé et enfin dans ton futur. Est-ce que t'aimerais avoir ce pouvoir d'arrêter le temps?
Oui, mais surtout j'aimerais avoir le pouvoir de remonter le temps.
C'est vrai?
Ouais.
Alors on va le remonter dans quelques minutes.
Ah bah ouais, c'est génial. On peut remonter il y a 9 ans.
Il y a 9 ans, on est en 2016. C'est ça?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y avait eu en 2016?
2015.
2015, 10 ans même.
Oui, mon fils est né.
Ah, évidemment, oui.
Voilà.
On va en parler un peu plus tard du passé,
d'accord,
il y a toute une partie dédiée à ça. On va parler du film Other, en salle, le pitch. Alice, ton personnage, retourne dans la maison de son enfance après la mort de sa mère avec qui elle avait coupé les ponts. Une maison figée dans le temps, remplie de mystères et de souvenirs enfouis, également dotée d'un système de surveillance extrêmement pointu. Une question, est-elle vraiment seule dans cette maison? Alors, le premier élément qui m'a frappé, c'est l'intensité des scènes dès le début du film. Finalement, le spectateur a très peu de temps pour se mettre dans le bain. On passe à l'action directement. C'est en tout cas l'impression que j'ai eue, dès les 10 premières minutes. Est-ce que cette intensité, tu l'as également ressentie sur le tournage?
Oui, c'était très intense parce que on tournait dans cette maison qui est le personnage à part dans le film. Et puis surtout qu'on tournait en deux langues en même temps, on tournait en anglais et en français en même temps. Ouais, et c'était tout le temps sans arrêt parce que comme je suis souvent seule, il n'y avait pas vraiment de temps d'attente. Je suis tout le temps là, donc toutes les scènes c'était moi. Il n'y avait pas vraiment de repos. Ou d'attente.
Alors là, j'apprends, les scènes ont été tournées en anglais et en français.
Oui. Moi, donc il y a deux versions différentes, en fait. Il y a une version en anglais et une version en français. Et c'est pas le même film, c'est pas la même prise, en fait.
Eh oui, moi j'ai vu la version anglaise.
Moi aussi, j'ai pas vu encore la version française, mais elle existe.
Moi ça m'intéresse. C'est vrai, ça t'est déjà arrivé d'ailleurs de te doubler toi-même.
Doubler, oui, mais là c'était pas le doublage.
Et là c'était carrément.
Alors que là, on faisait, dès qu'on finissait la scène en anglais, on passait à la même scène en français et on recommençait tout. Et on faisait ça tous les jours, deux fois.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Donc c'était.
On a fait deux films en un.
Deux films en un, oui. Ouais. Ça me rappelle les tout débuts du cinéma, avant que le doublage soit démocratisé d'ailleurs. Je pense directement à Laurel et Hardy, qui faisait pareil leur film dans différentes langues. Tu as parlé d'un élément assez important et c'est aussi un élément qui m'a frappé. C'est la solitude. La solitude, et j'ajouterai le silence aussi. Un casting resserré, beaucoup de plans sans dialogue où t'es livré à toi-même. Mais j'imagine que malgré tout, ça doit être particulier de jouer tout le temps toute seule avec très peu de dialogue.
C'est particulier, mais en même temps, j'avais beaucoup de liberté. Quand on est seul comme ça, on a plus de temps de faire des prises. On retourne pas sur les autres acteurs. C'était que moi, et puis j'avais le temps d'improviser ou de faire des choses qui n'étaient pas prévues. Donc, ça laissait plus de temps pour l'exploration, en fait.
Est-ce qu'on joue différemment quand on n'a pas les dialogues, justement, quand les émotions doivent passer par autre chose?
Oui, bien sûr, parce que ça doit passer par les expressions, le corps aussi. Mais il y a quand même, c'est marrant, j'ai pas l'impression que ce film n'a pas de dialogue. Il y a beaucoup de dialogues. C'est intéressant que tu retiens ça.
Je trouve qu'il y a des moments où le silence, même devient un élément qui ajoute à l'angoisse, qui ajoute à
C'est sûr, dans les films d'horreur ou de suspense ou des thrillers psychologiques, le silence comme le son d'ailleurs, et c'est la superposition des deux qui est importante en fait, ce qui fait très peur, qui est importante.
Olga, il est temps d'explorer ton passé.
Oh là là.
Tu voulais déjà parler du passé, justement. Tu me disais, alors arrêter le temps, peut-être, mais surtout le remonter.
Ouais.
De façon générale, tu me parlais d'il y a 10 ans, la naissance de ton fils, mais de façon générale, est-ce que tu es d'humeur plutôt nostalgique ?
Pour certaines choses, oui. C'est vrai que j'ai la nostalgie du temps où on grandissait en jouant dehors, en lisant les livres, et on n'était pas scotché sur les tablettes, par exemple, comme les enfants d'aujourd'hui le font, ce qui me rend très triste. Et moi, heureusement, j'ai eu de la chance de grandir quand tout ça n'existait pas. Donc moi, je suis nostalgique de ce temps-là, par exemple. J'aimerais bien que nos enfants puissent grandir comme on a grandi, nous. Il y a quelque chose quand même un peu... malsain que tout ça apporte l'addiction aux écrans et tout ça. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Moi, j'essaie de protéger mon fils.
C'est vrai ?
Oui. Je...
Assez strict sur les écrans ?
Ah, mais oui. Il n'en a pas. On lui a offert l'iPad que j'ai pris. Donc, c'est le seul cadeau que j'ai enlevé.
Ah, d'accord.
J'étais fâchée d'ailleurs avec la personne. J'ai dit, ça ne va pas faire un cadeau comme ça.
Oui, c'est vrai, parce qu'après, ils ont le nez plongé dedans et c'est.
Oui, donc il n'en a plus. Le cadeau a disparu. Méchante maman, mais c'est pour le mieux. Il n'a pas besoin de ça.
Oui, sur le long terme, je pense que c'est assez bénéfique. On va remonter encore plus dans le passé. Tu as grandi dans l'ancienne Ukraine soviétique.
Oui.
Du temps de l'URSS, élevé par ta maman, ta grand-mère. Il y avait aussi les grands-parents, oncles, tantes, cousines qui vivaient au même endroit. Tu en gardes quel souvenir de ça ?
Ah, c'était quand on vivait encore ensemble, mais c'était jusqu'à mes 5 ans, donc j'étais assez petite. Je garde des bons souvenirs parce que c'était joyeux. On était nombreux, en fait, c'est comme si on vivait dans la communauté, en fait, un peu. On s'entraidait et tout ça. Mais après, une fois qu'on s'est séparés, on a déménagé dans notre propre appartement. C'est vrai que moi, j'étais beaucoup plus triste. Hein. Je voulais revenir à... Je voulais vivre avec plein de monde, moi. Moi, je voulais pas être seule. J'ai toujours voulu avoir un frère ou une sœur. Et comme ma cousine ne vivait plus avec nous, pour moi, c'était comme si j'avais perdu une sœur. Bon, elle était toujours là, mais bon, je la voyais pas tous les jours. J'étais pas un enfant qui aimait être l'enfant unique. Pour moi, c'est un drame de ma vie. Mais bon, voilà, il y a pire que ça, mais j'étais j'étais très mécontente de ça.
Est-ce que la solitude, au cours de ta vie, ça a toujours été un élément que tu n'as pas apprécié, que tu n'as pas aimé, ou au contraire, est-ce que tu as appris à vivre avec ?
J'étais obligée de vivre avec, mais je ne l'ai jamais apprécié. C'est vrai qu'en fait, si je pense... Mais en fait, c'est une question assez... Ça dépend dans quel moment. En fait, en gros, j'aime pas être seule, j'aime pas la solitude, mais au moment où je suis fatiguée, il n'y a rien de mieux. Mais quand j'ai l'énergie, j'aime pas, non. Je préfère partager les choses. Je pourrais jamais partir en voyage seul, par exemple. Pour moi, ça ne sert à rien parce que je peux pas partager. Et s'il y a pas de partage, c'est comme si ça partait dans le vide. Mais ça, c'est moi, je le vois comme ça.
Oui, je suis d'accord avec toi. Et je pense d'ailleurs, c'est souvent la différence qu'on peut faire entre être seul et puis la solitude.
C'est pas pareil.
C'est pas pareil parce que souvent j'ai des amis à moi qui me disent mais moi j'adore être seul, j'adore ces moments-là. Et en fait la nuance qu'ils oublient de préciser c'est que ils la choisissent. C'est-à-dire que c'est comme un interrupteur, c'est-à-dire qu'ils peuvent ouvrir la porte, il y aura des gens derrière. Mais voilà. Sauf que la solitude, on ne la choisit pas.
On est tout à fait d'accord. Bah voilà, tu l'as bien formulé. C'est exactement ça. Et quand c'est imposé, c'est horrible. Et c'est vrai qu'au début de ma vie à Paris. Quand je venais d'arriver, j'avais 16 ans, j'avais pas encore 17 ans, et je me suis vite enfermée dans un petit appartement dans le 16e, parce que je louais un appart dans le 16e, je sais pas pourquoi. Et on m'a dit, ouais, c'est une erreur, c'est un quartier où tu vas te sentir seule, mais moi je savais pas, je connaissais rien, moi, j'avais trouvé, voilà. C'était un tout petit studio minuscule, et c'est vrai que là, j'étais tellement seule. Mais en même temps, j'avais peur de sortir dehors. Alors, j'ai vécu un espèce de...
Paradoxe.
Ouais, de paradoxe, parce que j'aimais les gens, mais j'étais tellement seule. Mais quand je pense à ça, c'était des moments très intéressants parce que il y avait beaucoup de rétrospection. J'ai lu plein de livres. J'écrivais mon journal tout le temps parce que comme j'avais personne avec qui je pouvais parler, je parlais à mon journal. C'était une personne que j'avais inventée. Si on lit le journal, je lui parle. Mais c'est vrai que parfois, c'était très dur.
Tu as encore ce journal ?
Oui. Il y en a plein parce que, bon, évidemment, c'était des cahiers qui finissaient et que je recommençais des nouveaux. Il y a tout un tas de journaux.
Je sais que la chute de l'URSS en 91 n'a pas forcément été un bon souvenir pour toi. Ta vie s'est dégradée après.
Oui, il y avait le perestroïka. mes parents, je veux dire ma mère, parce que j'avais pas les deux parents, ma mère en étant seule et avec mes grands-parents, ils avaient du mal à nourrir la famille, on va dire comme ça. Donc c'était, on n'avait pas toujours de quoi manger, ou c'était des choses assez simples. Je pouvais jamais acheter des habits neufs. C'était toujours d'occasion et parfois ils étaient endommagés, donc on devait les recoudre. Ma mère, heureusement qu'elle savait coudre parce qu'elle arrivait à recoudre les choses. Donc, j'ai vécu comme ça. C'était dur, mais en même temps, bien sûr que je n'étais pas contente sur le moment. Mais maintenant, aujourd'hui, je me dis que ça m'a formée d'une manière différente que si j'avais tout. Je n'aurais pas été la même personne. Donc, finalement, je pense que c'est un mal pour le bien.
Est-ce que ça t'a appris à apprécier les choses, voilà.
Oui, absolument. Et puis j'ai toujours un recul, et ça veut dire que j'ai connu les deux, parce que bon, parfois les gens ils me disent, maintenant et quand ils voient, c'est sûr que les posts sur Instagram, si je fais des posts, c'est des choses. Je me trouve dans des endroits jolis, souvent bien habillée, mais les gens ils pensent que j'ai vécu ça depuis le début. Mais sauf que moi j'ai connu les deux. Je sais ce que c'est de tout avoir et je sais ce que c'est que de ne rien avoir. Et j'ai jamais oublié. Et je sais que ça peut revenir du jour au lendemain. Hein. Les gens, pour plein de raisons, ils perdent tout. Et ça veut dire que moi, par exemple, contrairement à ceux qui ont l'habitude de vivre dans le confort, moi, je pourrais survivre. Moi, si je dois revenir, je survis. Il n'y a aucun problème. Parce que je sais comment faire. Avec rien. Il n'y a aucun problème. Je mourrai pas. Je vivrai comme j'ai vécu avant. Je connais tout ça.
Est-ce que aussi ça t'a permis de ne pas, entre guillemets, flamber, c'est-à-dire connaître, on connaît la célébrité, on connaît cette grande notoriété à une échelle mondiale, mais ça te permet de garder la tête froide.
Oui, absolument.
Ça explique aussi ta longévité dans l'industrie.
Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, oui, j'ai pas du tout, ça m'a pas pris la tête, j'ai pas la tête qui a explosé, je vois aucune différence entre moi en Ukraine et moi maintenant. Ce qui d'ailleurs, enfin, c'est vrai que c'est bizarre, parfois les gens me disent, mais est-ce que tu te rends compte? Non, je m'en rends pas compte. Je vois pas ça. J'arrive pas à le voir. Et puis, j'arrive pas à changer, je peux pas être une personne différente, je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a des gens qui changent, mais moi j'arrive pas. Enfin, et j'ai pas envie.
Tant mieux, quelque part.
C'est que, oui. Mais je sais pas comment ça se fait que ça arrive chez les autres. Je me dis, est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est un manque d'observation de soi-même? Parce qu'il doit y avoir il y a des raisons pour lesquelles ça arrive.
Un manque de recul, peut-être.
C'est ça.
Et aussi, tu as mentionné quelque chose d'autre précédemment. Tu as dit, et je n'oublie pas.
Oui. Vous pensez que les gens oublient? Oui, il y a certains qui oublient, peut-être. Mais comment on peut oublier?
Je pense que c'est assez facile. On s'habitue. Alors, pour le coup, je pense qu'on s'habitue à tout. On s'habitue à tout, même aux choses les plus extravagantes, même à l'opulence. Je pense que l'être humain peut s'habituer à absolument tout. Et effectivement, oui, ça doit être assez aisé d'oublier d'où l'on vient.
Ouais, non, mais moi, je n'ai pas oublié. Je n'oublierai jamais.
Alors, dans Other, on découvre rapidement que la maman de ton personnage voulait absolument que sa fille gagne un concours de beauté quand elle était adolescente, Miss USA Junior, avec toute la pression qui va avec et les injonctions liées aux standards de beauté. C'est un point clé du film. Tu as été mannequin et tu as commencé très jeune, 15 ans, où tu as été repéré dans les rues de Moscou. Donc forcément, le scénario du film a dû résonner en toi. Est-ce que la pression exercée sur ton personnage, tu l'as vécu toi à une échelle personnelle?
Oui, je l'ai vécu, mais pas venant de ma mère, heureusement. Ma mère, elle m'a plutôt dit le contraire pendant mon enfance. Elle m'a toujours dit que la beauté, que j'allais pas m'en sortir juste sur la beauté, que la beauté, c'était pas éternel, que ça changeait. Elle a dit, de toute façon, le corps, il vieillit, donc tu l'auras, allez, de 3 ans, 10 ans, et après, elle a dit, et après, tu vas faire quoi? Elle m'a toujours dit comme ça. Elle était assez directe, elle me cajolait pas. Elle était très directe, ma mère. Elle disait des choses, quand je repense, c'était des choses vraiment que peut-être aujourd'hui, on ne dirait pas aux enfants. Mais moi, je suis reconnaissante qu'elle était franche avec moi, et qu'elle me protégeait pas de tout ça parce que j'ai grandi dans le vrai. Elle m'a jamais menti, ma mère. Mais du coup, j'ai vécu, c'est vrai que là, dans le cas de mon personnage Alice, elle a une mère affreuse qui l'inflige cette beauté, qui l'inflige des régimes draconiens, qui, alors qu'elle est encore enfant, qui surveille tout ce qu'elle mange, qui l'apaise tous les jours, qui prend des mesures de son ventre, qui la punit si elle prend un gramme, ce qui est très cruel et assez destructeur. Alors que c'est une mère qui aime son enfant quand même, parce que c'est un amour assez égoïste. Elle l'aime et elle veut réussir à travers sa fille.
C'est ça. C'est ça. C'est une projection.
Elle projette complètement, ouais, ouais. Sauf que la fille, elle n'est pas du tout... elle n'a pas envie.
Elle n'est pas réceptive.
Oui, et c'est le trauma pour la vie.
J'ai bien compris que dans la vraie vie, ta maman ne cherchait pas à te surprotéger, mais n'était pas là non plus à te maltraiter comme le personnage d'Alice. Mais est-ce que malgré tout, cette pression pouvait venir d'ailleurs de l'industrie?
Ah oui, quand je suis arrivée, je suis devenue mannequin. C'est vrai que j'ai vécu toute la pression de perfection, de beauté, de surtout la minceur et tous ces trucs alimentaires. Tout ce que je mangeais, c'était surveillé et tout ce que je mangeais, c'était commenté par les autres. C'est-à-dire que tout d'un coup, on commentait sur ma nourriture. Et moi, j'avais pas l'habitude d'avoir des commentaires. Déjà, on était bien content d'avoir quelque chose sur la table pour manger quand j'étais petite. Quand il nous manque des moyens, on fait pas de régime. Hein. On pense à survivre et à avoir assez à manger surtout. C'était le contraire. Donc moi, en tant qu'enfant, j'aimais manger. Et tout d'un coup, j'arrive dans cette industrie où c'est ah qu'est-ce que tu manges? Ah non, là il y a trop de calories. Ah non quoi? C'est des cacahuètes. Non, c'est du gras. Il faut pas manger ça. Moi, j'avais jamais entendu ça. Moi, ma mère, enfin, dans ma maison, j'ai jamais entendu un mot. Il y avait rien sur la nourriture, sur les régimes. Enfin, c'est plutôt le contraire. Ma mère a passé toute mon enfance. Elle a passé son temps à vouloir prendre du poids parce qu'elle pensait qu'elle était trop mince. Parce qu'elle arrivait pas à prendre du poids, ma mère. Et bon, c'est dans les gènes. Je pense qu'on est, voilà, on a cette nature. Et donc, pour moi, c'était le contraire. C'est, il faut manger plus, parce que voilà, il faut manger, parce que demain, il y aura peut-être plus. Donc, j'étais plutôt là-dedans. Et c'est vrai que c'était un choc pour moi. Et oui, j'ai fini par essayer des régimes, parce que, même pas que j'avais besoin. J'avais aucun problème. J'étais fine par nature, mais c'est vrai que vu le psychose de tout le monde autour de moi, j'ai forcément on rentre dedans, donc on commence à expérimenter avec son corps, à essayer de ne rien manger de la journée, des choses comme ça. Et c'était des grosses bêtises parce que je peux vous dire que plus on se prive de quelque chose, plus on a envie de le faire.
Comment tu t'en es protégée de ça ou alors comment t'as réussi à poser des limites?
Quand j'ai compris que je commençais à déraper, j'ai cherché des livres qui parlaient sur ce sujet, sur le rapport au corps, sur l'alimentation, sur la vie saine, sur comment bien se nourrir et tout ça. Et en fait, j'ai compris que voilà, ça ne sert à rien d'être dans la folie. Il suffit juste d'être sain. Et quand on est sain, les choses viennent naturellement. C'est bizarre parce que c'est quand j'ai commencé à faire des régimes que j'ai pris du poids. Voilà, ça c'est un truc que j'ai jamais dit à personne. Mais quand j'étais jeune, comme j'ai expérimenté, c'était le paradoxe. Parce que moi, j'avais pas besoin de faire des régimes. Mais comme j'ai commencé à faire des yo-yo, vous voyez, je commençais à prendre du poids et c'était la première fois de ma vie que j'ai pris du poids et j'ai pas compris. Et c'est quand j'ai arrêté avec tout ça que je les ai reperdus.
J'aimerais avoir ton regard de mannequin où effectivement il y avait cette dictate qui était dans l'industrie. Est-ce qu'aujourd'hui, ces injonctions-là se sont propagées à la vie civile à cause des réseaux sociaux? Qu'on soit mannequin ou non, on a cette pression-là.
Ouais, c'est vrai que malheureusement, avec les réseaux sociaux, maintenant on voit tout. Il y a plein de... Enfin, je plains les jeunes qui voient tout et n'importe quoi, et surtout ils font pas la différence de ce qui est sain ou ce qui est pas sain. Je pense qu'on peut très vite s'y perdre, et surtout avec les réseaux sociaux, c'est très égocentrique. Les gens, ils sont concentrés sur eux-mêmes, ils sont complètement obsédés par eux-mêmes, et c'est moi, voilà ma photo, voilà ce que je fais, voilà ce que je mange, voilà ce que je veux, voilà ce que je dis, voilà mes pensées, enfin c'est tout. Il y a cette culture de vouloir exister. Bon, après, je comprends, mais on est passé au stade maladif. En vouloir tellement d'exister, on n'existe plus.
Oui.
Parce qu'en fait, cette existence, elle est fausse. Finalement, dans la vraie vie, on n'y est plus. On n'est que sur les réseaux. Donc, c'est là-bas que ça se passe. Mais dans la vie, on existe moins que la génération qui était d'avant. Eux, ils existaient. Ben nous, on existe de moins en moins. Il n'y a plus rien.
Et il y a quelque chose
je ne trouve pas de mots, mais...
Il y a quelque chose de fantomatique.
Exactement, parce qu'on n'existe plus. Tous ces amis, tous ces followers, ben c'est du faux, parce qu'on ne les connaît pas. Pareil, je garde la tête très froide sur ça, je sais très bien que c'est du faux. Et bon, moi je fais... c'est très bien pour côté professionnel. Là, je suis dans la promotion, je vais parler de mon film. Après, j'arrête et vous n'allez plus me voir pendant quelques mois. Souvent, je suis comme ça. Enfin, souvent, il n'y a rien qui se passe sur mon Instagram parce que je pars en vacances. Donc, allez, il y aura une photo par semaine. Mais j'y pense pas. Je peux pas faire ça.
Je le disais, tu es repéré dans les rues de Moscou à 15 ans, arrivé en France dans la foulée. On est fin 90, début année 2000. Il me semble que tu obtiens la nationalité française en 2001. Tu apprends la langue en un temps record. Et le cinéma, finalement, n'arrive pas si longtemps après. Premier film en 2005, L'Annulaire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers la comédie?
Je commençais à m'ennuyer. Je commençais à vouloir m'exprimer, enfin. J'avais tellement été seule pendant longtemps à rester avec mon journal. Je crois que je n'avais marre de parler à mon journal. J'avais tellement d'émotions et de sentiments. Et puis j'avais... C'est surtout que dans... Bon, je pense que je dois avoir ce côté expressif déjà par nature. J'ai essayé de m'exprimer pendant les photos, mais ils ne voulaient jamais que je fasse ça. On me disait toujours calme-toi, sois statique, non, fais rien, non, pas d'expression, juste sois comme tu es. Et moi, j'avais envie de faire plein d'expressions, mais ils n'avaient pas besoin de ça. Donc, j'ai compris que dans le cinéma, je pouvais avoir accès à tout ça. Et puis, j'ai essayé. Hein. Au départ, c'était vraiment pour... parce que j'avais envie de sortir ces émotions. Et puis, bon, j'ai vu des films qui m'ont inspiré. J'allais au cinéma et j'ai vu des actrices incroyables comme Emily Watson qui m'a... Ben c'est elle qui m'a donné l'envie de vraiment passer à l'acte. Quand j'ai vu Breaking the Waves, je suis sortie du cinéma et je me suis dit, voilà, ça c'est... Moi, je veux pouvoir jouer ça. Ce qui, bon, c'est pas joyeux hein, dans ce film, ce qu'elle joue, mais elle est juste prodigieuse, elle est incroyable. Elle m'a tellement inspirée.
Et finalement, ben, c'est que 3 ans plus tard que tu deviens mondialement connue, hein?
Pour c'est le vrai rôle que c'est arrivé assez vite.
Oui, de Camille Montes, la James Bond Girl de Quantum of Solace. Et on est en 2008. Est-ce que tu te souviens du moment où on t'annonce que tu as décroché le rôle?
Oui, je me souviens, c'était Noël. Et j'étais à Paris avec plein d'amis que j'avais invités. Et le téléphone a sonné. Je pense que mon agent a dû faire exprès. Ça ne peut pas être une coïncidence comme ça. Je pense qu'il le savait, il a dû attendre. Il me l'annonce la veille. C'était le 24 au soir. Et il m'a dit, j'ai crié comme ça et personne n'a compris ce qui se passait parce que j'avais dit à aucun de mes amis que j'étais en train de passer des castings pendant des mois avant. J'avais tellement peur de porter malchance que même ma mère, elle savait pas. Donc c'était une surprise, personne n'a compris. Il dit mais depuis quand, mais comment tu l'as eu, t'as fait un casting? J'ai dit non mais ça fait 4 mois que je suis dessus et que je travaille. Et je devais garder ça dans un secret absolu. Je suis quand même forte sur ça. Quand il ne faut rien dire, je dis rien.
Bien sûr, quand on raconte tout ça comme une biographie, on a l'impression que tout s'enchaîne très vite. Mais quand même, hein, tu n'as que 28 ans quand tu joues aux côtés de Daniel Craig. Et ce que je remarque en lisant ta filmographie, c'est qu'il n'y a pas une seule année sans que tu tournes dans un film. Comment t'expliques cette constance qui caractérise ta carrière? On dirait que tout se déroule de manière très fluide. Mais je crois que tu as un peu répondu quand même.
C'est vrai?
Oui, en gardant la tête froide justement, sachant que...
Ah non, mais le fait que je travaille, c'est que peut-être parce que j'arrivais pas à m'arrêter. Hein. J'étais tellement excitée par le fait que ça marchait, que j'ai, j'avais envie de tout prendre, mais d'ailleurs c'était peut-être trop, j'aurais pas dû tout prendre, mais j'avais envie, parce que pour moi c'est une histoire qui aurait jamais dû m'arriver. Enfin, quand je regarde d'où je viens, je me dis mais c'est pas possible. Donc il faut explorer tout ça, j'ai une chance. Et puis aussi, peut-être, c'est aussi la peur de rien... J'arrive pas à rien faire, mais sûrement ça doit être un peu pathologique, parce que on devrait pouvoir rien faire. Hein? D'après les bouddhistes, il faut pouvoir juste rester et ne penser à rien et de regarder la nature. Mais c'est très difficile à faire, donc je ne dois pas être assez zen, parce que je travaille tout le temps. Mais c'est le but, hein. Un jour je partirai dans les montagnes, je ne ferai plus rien.
Peur d'être seule, peur de ne rien faire, j'ai l'impression que plus généralement c'est une peur du vide.
Ah, mais combien je vous dois, monsieur? Voilà. Ben oui, le peur du vide, oui. Très peur du vide, parce que pour moi c'est la mort.
Ah, carrément.
Oui, mais c'est ça le problème, parce que et encore, justement, voilà, dans le bouddhisme, c'est pas du tout de cette manière que c'est vu. Il faudrait que j'apprenne à le voir différemment. Mais pour moi, c'est pas forcément toujours la mort, le vide. Mais pour moi, je l'associais pendant très longtemps et même encore aujourd'hui, bizarrement, avec la mort. C'est vrai que j'ai tellement peur de ne pas exister qu'il faut absolument que je fasse des choses. Puis, de toute façon, je me rends compte que la vie est courte. De toute façon, un jour, il y aura le vide. Donc je me dis, pourquoi l'avoir maintenant si ça viendra très rapidement de toute façon? Un jour, on ne sera plus là.
C'est vrai, mais ça se trouve.
Et il y aura le vide constant.
Et qui sait?
Et qui sait, voilà. Sauf s'il y a quelque chose, mais ça, on ne le saura jamais jusqu'au moment où il y a le vide.
On verra bien. S'il y avait quelque chose, un souvenir ou une personne de ton passé que tu aimerais faire revenir dans ton présent, ça serait quoi ou qui?
Mon grand-père et ma grand-mère. Ouais, mais j'aurais bien voulu parler à mon grand-père parce que c'était un personnage intéressant. Je pense qu'il souffrait beaucoup. Je pense que c'est en l'observant que j'ai envie d'étudier la psychologie. De toute façon, mes deux parents, ils ont fait la guerre, donc ils m'ont raconté plein de choses. Et c'était des personnages tellement... Tout ce qu'ils ont vécu, nous, on n'a pas vécu tout ça. On a la vie trop facile. On ne s'en rend pas compte. Hein. Parce que ces gens-là, ils ont vécu vraiment la galère. Et c'était les gens forts. Nous, on est faibles par rapport à eux. Nous, si ça nous arrive, ce qu'ils ont vécu, on va tous crever. parce qu'on a, quand on n'a pas l'habitude. C'est vrai, ça. Quand on n'a pas l'habitude, on n'arrive pas à rester fort en face des grandes catastrophes. C'est vrai que c'est mieux de connaître. Moi, je l'ai vraiment connu. Enfin, l'enfance, elle était assez rude. Hein. Enfin, oui. J'ai vu mes deux grands-parents sont morts devant moi. Je les ai vus... prendre dernière respiration, enfin, je sais ce que c'est qu'un corps mort. Enfin voilà, tout ça, pour moi, c'est normal.
Ça vient peut-être de là, cette inquiétude avec le vide.
Peut-être, c'est possible, mais en même temps, ça donne aussi la force. Et je pourrais le refaire si je dois être dans des conditions comme ça. Je n'irai pas en courant, je ne partirai pas si je vois des choses comme ça. Je serai là parce que ça fait partie de la vie.
Olga, on a parlé de ton présent, de ton passé, mais qu'est-ce qui nous reste ?
Qu'est-ce qui nous reste ? C'est quoi le futur ? Ah ! Oh my God ! Je suis pas...
Est-ce que c'est une notion à laquelle tu penses souvent, le futur ?
Malheureusement, oui.
Pourquoi malheureusement ?
Parce que il faut qu'on soit dans le présent. C'est tout le contraire de l'éveillement et d'être zen. Il ne faut ni être dans le futur, ni dans le passé. Il faut être dans le moment présent. Et on a tous du mal à faire ça.
Je crois qu'on est tous un peu comme ça. On arrive.
Et j'essaie de travailler sur ça, mais c'est difficile.
Ça penche plus vers quoi ? Vers le passé ou vers le futur, justement ?
Maintenant, c'est vers le futur.
Ouais.
Mmh, oui.
Maintenant, ouais. Tu dis.
Oui, parce que je pense que j'ai passé par un stade. C'est une séance de psy, là. je suis passée par un stade de rétrospection. J'ai dû tout digérer pour comprendre qui je suis et pourquoi je réagis de certaines manières, pourquoi je me comporte d'une certaine manière dans la vie. Et j'ai compris que tout ça, c'est parce que j'étais formée d'une certaine moment dans l'enfance. Et une fois que j'ai compris ça, je ne veux pas dire que j'ai tout compris. Hein. Il y a sûrement des choses que je vais encore découvrir. Mais maintenant, oui, je pense plus au futur.
Selon toi, qu'est-ce qui te reste à accomplir dans ta carrière ?
Bah, il y a toujours des choses à faire. Moi, par exemple, j'ai jamais fait de film d'enfant. Comme ça, mon fils pourrait regarder, parce qu'il peut rien regarder de ce que j'ai fait. Ce film-là, il est terrifié. Il m'a dit, je vais pas le voir. Je lui ai dit, oui, bah, je vais pas te le montrer déjà. Surtout qu'il est passé sur le plateau.
Mm-hmm. Ah oui.
Ouais, donc il a, ah il oui, a vu, il ouais. a vu la maison.
Ah oui.
Il a eu très peur. Mais il commence à être assez immunisé contre toutes ces choses-là. Il comprend, il sait que tout ça, c'est pas vrai. Tout ce qu'il voit à la télé. Mais bref, donc oui, il y a des films de famille ou d'enfants que je pourrais faire.
Plus légers.
Qui sont plus légers parce que tous mes films sont assez dark.
Comment tu l'expliques ça d'ailleurs?
Bah, peut-être parce que j'ai un penchement vers ça. Vous voyez bien par rapport aux choses que je dis.
Oui. Ah, je comprends mieux.
J'avais lu beaucoup Schopenhauer quand j'étais petite. Ah. Petite, quand j'étais jeune.
Schopenhauer, c'est la philosophie la plus pessimiste qui soit.
Oui, et je me rappelle avoir été d'accord avec lui à 18 ans quand même. Donc ça explique tout. Mais je pense que j'ai changé aujourd'hui.
Ça serait plus vers quel philosophe?
À l'époque, j'étais assez dark. Non, mais de toute façon, ma philosophe préférée, c'est Simone de Beauvoir. C'est parce que c'est normal, c'est une femme, je m'identifie à elle et puis j'adore.
Olga, nous arrivons à la dernière partie de l'émission. Je vais donc demander à toutes les personnes présentes de ce studio de le quitter.
Ah ! Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai peur. Il va y avoir un jump scare.
Non.
Non, jump scare.
Pas aussi effrayant que dans le...
Pas comme dans le film.
Pas comme dans le film, non. Je vais déclencher la capsule... Tu seras complètement seul pendant une minute, l'occasion de te confier sur le sujet de ton choix. Déclenchement de la capsule dans 10 secondes. Et moi, je te dis au revoir, Olga.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open the capsule.
Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Je sais pas sur quoi me confier. Je crois que je me suis assez confiée. En tout cas, je pense que il faudrait qu'on repense à notre façon de vivre et qu'on commence à prendre des mesures en urgence parce que je trouve que le monde va pas bien. Bon, je suis pas la seule qui trouve ça. C'est pas très joyeux, mais sans se rendre compte de ça, on pourra jamais changer et être mieux. Donc si on veut être mieux, on est obligé d'accepter que ça ne va pas. Parce que c'est qu'à partir de là qu'on peut grandir. Quoi, c'est fini? Mais j'en ai encore pendant une heure.